Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Samia Badat-Karam, conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, élue à la mairie du 16e arrondissement. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors Samia Badat-Karam, la France, comme le reste du monde, est confrontée à une grave crise énergétique. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a décidé d'éteindre la lumière des bâtiments publics à Paris à partir de 22h. La tour Eiffel également sera éteinte plus longtemps au cours de la nuit. Comment accueillez-vous ces décisions de la maire de Paris ?
Écoutez, franchement, c'est de la cosmétique et d'ailleurs, ça fait malheureusement, ça fait rire beaucoup de monde. La première ministre Elisabeth Borne elle-même, d'ailleurs, voilà, avec subtilité, certes, mais a raillé ces mesures parce que il ne s'agit pas de faire de la cosmétique. Il s'agit de prendre des mesures fortes et impactantes. Or, avec les mesures qu'elle annonce, il y aura déjà des problèmes de sécurité. On sait déjà qu'il y a des rues à Paris qui ne sont même pas éclairées. Moi, je pense déjà aux questions de sécurité et puis à l'attractivité des commerçants. Seront pénalisés. Donc très concrètement, initialement, les services de la ville de Paris devaient diminuer leur consommation d'énergie de 30% en 2020. Résultat, la baisse, en fait, elle n'était que de 3%. Donc c'est vraiment un échec. C'est-à-dire qu'elle fait des mesures d'annonce, elle fait des mesures cosmétiques, mais elle n'applique même pas le programme qu'elle s'était fixé. Et d'ailleurs, à l'échelle de Paris, la consommation d'énergie aurait dû diminuer de 25% dans le plan climat 2014-2020 et elle n'a diminué que de 5%. Celle du parc municipal et de l'éclairage n'a diminué que de 3,5% contre 30% prévu initialement. C'est encore un échec d'Anne Hidalgo. Donc les histoires de Tour Eiffel, franchement, malheureusement, c'est presque risible.
Paris est surnommée la ville lumière. Vous avez le sentiment que éteindre des bâtiments emblématiques peut nuire aussi au tourisme, puisque Paris est la ville la plus touristique du monde ?
Exactement, ça peut nuire donc à l'attractivité de notre ville. Déjà que la situation financière de la ville de Paris n'est pas reluisante depuis l'arrivée de Madame Hidalgo. Si en plus on est privé des ressources touristiques, ça sera la banqueroute totale. Donc effectivement, déjà ça c'est une mesure qui pour moi vraiment est purement symbolique. C'est pas là le vrai sujet. Et en plus ça poserait la question de l'éclairage en Paris peut causer des questions de sécurité et pénaliserait nos commerçants et l'attractivité donc la venue des touristes.
Alors justement vous parlez des commerçants, Samia Badat-Karam, est-ce que vous redoutez qu'on annule les illuminations de Paris lors de la période de Noël ?
Je pense que si on se fie à la philosophie de Madame Hidalgo, ça pourrait effectivement être encore une mesure cosmétique qu'elle pourrait annoncer au lieu d'appliquer les vraies solutions et en tout cas de prendre le problème à bras le corps, effectivement.
Alors tout de même, il y a une mesure peut-être avec laquelle vous serez peut-être d'accord, c'est la baisse des températures à 19 degrés dans les établissements publics de la ville. Paris montre l'exemple aux Français qui sont invités aussi à faire des efforts.
Alors, c'est une mesure qui va dans le bon sens. Maintenant, attention à ce que nos enfants, je pense notamment dans les crèches et les écoles, ne soient pas non plus pénalisés. Je ne sais pas vers quel type d'hiver on part, mais je pense aussi aux enfants, il faut faire attention. Moi, je suis élue chargée de la caisse des écoles, donc je connais bien le sujet, et notamment tout ce qui est petite enfance. Attention encore à ne pas faire des effets d'annonce qui ensuite pénaliserait nos petits administrés.
Alors sur le plan national, Elisabeth Borne a annoncé une augmentation des tarifs de l'énergie de l'ordre de 15%. C'est une hausse moins forte que dans d'autres pays européens. Pour autant, est-ce que vous redoutez les conséquences de ces hausses pour les personnes les plus fragiles ?
Je pense que l'hiver va être très compliqué. Je vous disais encore une fois, on ne sait pas encore quel type d'hiver on aura. On peut espérer qu'il ne soit pas trop rude parce que la rentrée sociale, l'hiver en tout cas risque d'être très compliqué si les factures d'électricité flambent. Le porte-monnaie des Français est déjà extrêmement impacté par la hausse et l'inflation par la hausse des denrées de première nécessité. Face à un hiver très rude qui ferait monter le prix du chauffage, ça pourrait être extrêmement compliqué. Moi, en tout cas, je le redoute.
Samia Badadkaram, j'aimerais qu'on parle du crack à Paris. Une vaste opération de police a visé mardi le square de Forceval, près de la porte de la Villette. Le nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, promet qu'il n'y aura plus de crack à Paris dans un an. Est-ce que vous avez le sentiment que cette question est aujourd'hui prise très au sérieux par le successeur de Didier Lallement?
En tout cas, on peut se féliciter des annonces du préfet. En tout cas, on ne peut également que regretter l'inaction de Madame Hidalgo sur le sujet, et pire que l'inaction, des choses très graves. Hein. Vous vous rappelez, il y a encore quelques mois, j'étais venue sur votre antenne et on était à l'époque en train de se battre contre l'implantation d'un centre pour toxicomanes du crack en plein cœur du 16e arrondissement, au milieu des écoles. Parce qu'effectivement, Madame Hidalgo, non seulement elle prend pas le problème à bras le corps, mais en plus, elle l'aggrave hein, par des mesures de ce type. Nous, on est vraiment ravis que le préfet Nunez se saisisse de ce sujet, parce qu'au groupe Changer Paris, avec Rachida Dati, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Nous, ce qu'on demande, et vous le savez, hein, c'est de mettre fin au plan crack, et on plaide vraiment pour une gouvernance partagée entre la ville de Paris, hein, qui ne doit pas se défausser hein, sur l'État, et en lien avec les maires d'arrondissement, la région Île-de-France et les collectivités limitrophes de Paris. Et pour faire écho à ce que je vous disais là à l'instant sur l'implantation d'un centre de crack qu'elle voulait au cœur des écoles, nous on pense au contraire que il faut soigner ces personnes, ces malades, ces drogués dans un lieu non dense en Ile-de-France, loin des lieux de consommation, loin des lieux de vente. Il y a quand même un minimum de bon sens à appliquer sur ces sujets. Donc et puis nous on souhaite aussi qu'on abandonne le projet de multiplication des haltes soins addiction voulu par Anne Hidalgo et son adjointe à la santé, Madame Souiris.
Alors, le nombre de policiers a augmenté à Paris. Qu'attendez-vous de la police pour faire face à l'insécurité dans la capitale, puisqu'il y a une augmentation des vols, mais aussi des violences sexuelles à Paris?
Alors, effectivement, il y a une hausse très très inquiétante des violences, à la fois sexuelles et puis des vols et des violences aggravées sur les personnes. Et d'ailleurs, depuis l'arrivée de Madame Hidalgo, elles ont même augmenté de 25%. Donc c'est très grave, et ce n'est pas avec sa police municipale, excusez-moi l'expression, au rabais, qu'on va y arriver. Parce que déjà, elle, dans sa philosophie, qui est une philosophie, excusez-moi, un peu de gauche, la police municipale ne devrait s'attaquer en fait qu'aux automobilistes. Hein. Je caricature un peu, mais ça, c'est un peu le cas. Or nous, au groupe Changer Paris, pour nous, la police municipale doit vraiment avoir des véritables pouvoirs. Nous, on plaide pour une police municipale armée. Elle refuse. On plaide également pour davantage d'attractivité sur ce métier, parce que vous savez qu'elle peine à recruter des policiers municipaux parce que les conditions qu'elle offre ne sont pas attractives. Donc tant qu'elle n'aura pas mis sur la table les conditions d'avoir une vraie police municipale, donc armée, mais également motivée par des conditions de travail valorisantes, et surtout qu'elle orientera uniquement les missions de la police municipale vers les automobilistes, l'insécurité pourra malheureusement ne pourra que grandir dans Paris. Effectivement, cet été, on a eu une multiplication de viols, les agressions avec violence, les vols, tout ça ne fera qu'empirer si la police municipale telle que voulue par Anne Hidalgo ne change pas totalement de braquet.
Samia Badadkaram, j'aimerais qu'on évoque la question des dark stores, ces entrepôts utilisés par des livreurs pour livrer des courses en quelques minutes, très rapidement, dans la capitale. Quelles nuisances occasionnent ces nouveaux commerces et que peuvent faire les maires pour les limiter dans leur arrondissement ?
Alors, au groupe Changer Paris, ça fait très très longtemps, on a fait, je crois, pas moins de 6 vœux sur la question des dark stores. Alors, évidemment, vœux totalement rejeté par la mairie de Paris, parce qu'effectivement on est conscient, et nous les mairies d'arrondissement, on est vraiment conscient des nuisances, des incivilités, et notamment commises par les livreurs. Alors on ne pointe pas les livreurs parce que ce sont des personnes qui ont des conditions de travail déplorables, qui elles-mêmes font ce métier non pas par choix, mais vraiment par nécessité. Mais on voudrait que l'échelon des mairies d'arrondissement, les pouvoirs en tout cas des mairies d'arrondissement soient renforcés sur le sujet des dark stores. Et la ville de Paris a quand même sa responsabilité, parce qu'elle a tendance à se défausser encore une fois sur l'État. Alors l'État doit agir, hein, et je vous expliquerai après pour comment. Mais la mairie de Paris doit faire déjà un inventaire donc de tous ces dark stores et les communiquer aux mairies d'arrondissement. Et puis aussi, elle doit être très vigilante, puisque c'est elle qui délivre les autorisations. c'est quand même la ville, donc elle a quand même sa responsabilité. Quand Madame Hidalgo dit que ce n'est pas elle et que c'est l'État, c'est faux. Elle doit quand même, au niveau des autorisations, être beaucoup plus vigilante. Et encore une fois, nous plaidons pour un inventaire total de ces dark stores et de ces dark kitchens, parce qu'on parle des dark stores, mais il y a également les dark kitchens, hein, ces lieux qui se multiplient pour faire face à toutes les commandes sur les plateformes type Deliveroo ou Uber Eats. Donc dark store et dark kitchen, c'est la même chose.
Précisément pour les auditeurs qui n'habitent pas à Paris, qu'est-ce que c'est exactement ces dark kitchen et ces dark store? Pourquoi c'est gênant aujourd'hui?
Alors les dark stores et les dark kitchens, déjà ce sont des lieux au sein des villes, au sein des mairies d'arrondissement. Alors dark stores, ce sont des lieux où sont stockés un maximum de produits. Lorsque vous faites une commande sur une plateforme en ligne type Amazon, je ne vais pas faire de publicité sur votre radio, mais quand vous faites une commande, pour pouvoir livrer le consommateur au plus vite, se sont multipliés au sein des villes. Donc ces dark stores sont des entrepôts en fait, hein, très concrètement des entrepôts. Et il y a des allées et venues incessantes, nuit et jour, de livreurs qui viennent, et ça nuit à la tranquillité des riverains. Pareil pour les dark kitchens, qui elles en plus font une concurrence aux restaurants, dans des conditions de travail qu'on ne connaît pas bien, avec des autorisations de travail qui sont pas toujours aux normes. Et ce sont des lieux où sont préparés des repas qui sont ensuite livrés par les plateformes donc que j'ai citées, Deliveroo, Uber Eats. Et là encore, il y a des allées et venues incessantes de livreurs, nuit et jour, et ça crée beaucoup, beaucoup de désagréments pour les riverains, en plus de la concurrence aux restaurateurs. Hein.
Samia Badat Karam, le prochain Conseil de Paris aura lieu le mardi 11 octobre. Votre groupe politique a fait sa rentrée autour du thème de l'écologie. Ces questions d'environnement, elles sont importantes pour les Républicains et les centristes à Paris?
Les questions de l'énergie préoccupent tout le monde aujourd'hui. Vous avez bien vu, c'est le sujet majeur. Hein. C'est un sujet qui est majeur, qui nous inquiète à juste titre. Et les sujets d'énergie et d'écologie en général ne doivent pas être laissés à la gauche et encore moins aux écologistes qui ne sont écologistes que de nom. C'est un sujet qui concerne tous les Français. Et nous, au groupe Changer Paris, sous l'égide de Rachida Dati, on s'intéresse à tous les sujets. Aucun sujet ne doit être laissé aux extrêmes ou à la gauche quand il impacte la vie, le quotidien des Français. Et nous plaidons, nous, pour une écologie positive, pas une écologie punitive, mais une écologie où on réfléchit en fait à Paris dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, comment faire pour mieux gérer l'énergie, en sachant que les énergies fossiles voilà, sont en train de diminuer. Il faut réfléchir à notre dépendance énergétique et ça impacte la ville de Paris, ça impacte la gestion des villes, des mairies d'arrondissement, et c'est sous cet angle que, avec Rachida Dati, nous avons réfléchi lors d'un séminaire la semaine dernière à comment continuer à améliorer le quotidien des Parisiens tout en maîtrisant notre consommation d'énergie.
Alors un débat sur l'euthanasie a été lancé par le président Macron suite à un avis donné par le comité d'éthique. Des personnalités comme Lynn Renault réclament une loi pour le droit à mourir dans la dignité. Est-ce que vous considérez qu'il est nécessaire de changer la loi sur cette question ?
Écoutez, c'est un sujet qui est très très délicat et je suis désolée, je n'ai pas d'avis extrêmement tranché sur le sujet. Quand on n'est pas personnellement concerné, on peut effectivement débattre et avoir la liberté d'y penser, mais c'est vrai que face à la réalité, face aux personnes qui vivent parce qu'elles-mêmes sont concernées ou parce qu'un proche est concerné, c'est un sujet qui est quand même extrêmement délicat. À titre personnel, si vous me demandez mon avis personnel, je pense que la médecine ne devrait pas être au service de la mort, et c'est donc l'euthanasie, c'est vraiment un sujet qui me révulse à titre personnel. Mais j'ai pas non plus envie de juger ceux qui sont dans une telle souffrance qu'ils y pensent. Vous voyez, c'est quand même un sujet qui est extrêmement délicat et qui, pour le coup, à mon avis, dépasse tous les clivages politiques.
Alors, le congrès des Républicains a lieu en décembre. Plusieurs personnalités ont déjà fait savoir leur envie de diriger le parti. Qu'attendez-vous de ce congrès et aussi du rôle de la droite dans la vie politique française ?
Je pense que la droite, hein, on a vu les résultats aux dernières élections, enfin toutes les élections qui ont eu lieu, hein, que ce soit législatives ou les élections présidentielles, la droite doit vraiment se reconstruire et réfléchir à comment la droite peut attirer à nouveau les Français, parce que je pense que les idées que nous portons sont légitimes et elles plaisent aux Français, mais ces logiques de parti aujourd'hui, elles ont été déconstruites par le macronisme, puisque le macronisme fait que la droite et la gauche se sont rassemblées dans une sorte de parti et de courant idéologique unique. Et pour que la droite puisse exister, il faut vraiment trouver un nouveau modèle. Et actuellement, moi, je vais paraphraser un petit peu Rachida Dati, entre la droite PACA et la droite vendéenne, je ne sais pas si c'est ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Je pense qu'elles attendent vraiment, les Français attendent de nous, de la droite républicaine, hein, de LR, qu'on soit quand même dans une logique d'opposition constructive face au gouvernement, parce qu'on a quand même un quinquennat à vivre ensemble, et peut-être faire émerger des nouvelles personnalités, une nouvelle dynamique. J'espère que ce ne sera pas un énième congrès. Hein. On a vécu des congrès, et il faut vraiment que des nouvelles personnalités qui répondent vraiment aux attentes des Français et aux attentes des Français au quotidien et puissent émerger. Moi, je trouve qu'une personnalité comme Rachida Dati, alors elle est pas candidate hein, à la présidence du parti, mais je pense que c'est ce type de personnalité qui ressemble aux Français, qui ont un parler vrai, qui peuvent aujourd'hui faire renaître notre parti politique.
La droite parisienne a réussi à encaisser le choc des dernières législatives puisque vous avez perdu vos deux sièges de députés à Paris.
Effectivement, nous avons perdu deux sièges, donc les deux sièges de députés, mais nous avons la chance d'être au Conseil de Paris la première force politique. Nous sommes le premier groupe politique, le groupe Changer Paris avec 55 conseillers de Paris et le premier groupe politique, devant même le groupe politique de Madame Hidalgo. Et nous misons sur cette dynamique, sur cette force. À Paris, en tout cas au niveau municipal, nous avons la possibilité d'agir, de nous opposer à ce que nous estimons contraire à l'intérêt des Parisiens. Et je pense qu'il faut aujourd'hui se construire autour de ce groupe Changer Paris et de Rachida Dati pour reconstruire la droite à Paris, mais plus globalement la droite en France.
Merci Samia Badat Karam. Je rappelle que vous êtes conseillère de Paris, membre du groupe Changer Paris, présidé par Rachida Dati, élue à la mairie du 16e arrondissement. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.